Bonjour à toutes et à tous. Comme c'est la première fois que je me présente devant vous pour assurer la prédication, je prendrai quelques instants simplement pour me présenter au cas où tout le monde n'aurait pas encore eu l'occasion de nous croiser. Avec mon épouse Myriam, nous vous avons rejoint au mois d'août de l'année dernière. Nous sommes originaires de la région de Lille. Nous avons deux grands enfants de 25 et 24 ans qui se sont installés à Grenoble. Et Lille, Grenoble, c'était vraiment loin. Donc on a demandé au Seigneur et à l'éducation nationale de pouvoir se rapprocher. Quand je dis je ne sais pas, je sais qui a eu le pouvoir de décision l'année suivante. Nous étions donc amenés à rejoindre votre Église. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin. Ce sera une lecture en plusieurs temps, donc vous pouvez la laisser ouverte dans Matthieu chapitre 18. Et c'est un thème que j'ai eu à cœur de traiter avec vous à l'occasion du congrès CAEF. Étienne Lermeneau faisait référence aux difficultés et aux souffrances consécutives à la difficulté que nous avons de pardonner. Et il faisait remarquer qu'il y avait beaucoup de vies détruites, beaucoup d'assemblées en souffrance à cause d'une insuffisance de pratique du pardon. Et alors, je ne sais pas si le diaporama est déjà parti. Voilà. Jésus souligne lui-même l'importance du pardon dans le Notre Père, puisque si on le parcourt rapidement, il commence par exalter la souveraineté de Dieu lorsqu'il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ensuite, il passe à nos besoins très pratiques. Donne-nous notre pain de ce jour. Mais la parole qui vient tout de suite après, c'est pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et je crois que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons bien reconnaître que ce thème du pardon nous interroge, nous pose problème. Je ne sais pas vous, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de facile ni de naturel. Alors j'ai fait le choix de parcourir le chapitre 18 à compter du verset 15 et en plusieurs temps nous irons jusqu'au verset 35. Le premier passage que nous lirons, donc à compter du verset 15, nous parle du comment gérer un différend entre deux frères. C'est Jésus qui parle. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes, pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les correcteurs d'impôts. Nous arrêterons là la lecture pour l'instant. Un plan en trois étapes, donc. Première étape, va voir ton frère, montre-lui sa faute, dis-lui en quoi tu as été offensé, dis-lui ce que tu lui reproches, dis-lui ce qui t'a blessé. Est-ce que c'est facile à faire? On sait bien que certains vont garder tout ça pour eux, ruminer leur rancœur. On ne sait pas pourquoi, parce qu'ils se sentent humiliés, parce qu'ils n'osent pas. On a quelquefois de mauvais prétextes. « Oh, je vais passer l'éponge, je ne vais pas faire d'histoire. » Mais en fait, on ne passe pas vraiment l'éponge, on garde les choses dans son cœur. Et la conséquence, c'est souvent qu'on s'aigrit, que la blessure ne guérit pas et que la relation entre les personnes reste altérée durablement. D'autres, au contraire, vont être très prompts à prendre la parole. « Écoutez ce qu'un tel m'a fait !» Ils peuvent même quelquefois prendre des gens à témoin, voire l'Église. Ils appellent la communauté à prendre position, en présentant uniquement leur point de vue, bien sûr. La conséquence, ça peut en être un trouble, une division dans l'Église, voire la mise à l'index d'un frère avant même qu'il ait pu prendre la parole. Ce n'est pas du tout ce qui nous est préconisé. Jésus nous dit « Va voir ton frère, mais que cela se passe en tête à tête. C'est pas si fréquent que cela dans l'écriture d'avoir un mode opératoire aussi détaillé sur la façon de faire. Pourquoi le tête à tête pour commencer ? Parce que ce tête à tête va permettre à l'offensé de dire en quoi il a été offensé, et nous savons l'importance de pouvoir dire les choses. C'est quelquefois même utile pour nous de mettre des mots, parce qu'on est quelquefois animé de sentiments qu'on ne comprend pas toujours complètement. Aller voir la parole, dire les choses, ça nous aide aussi à comprendre un peu la situation que nous vivons. Le 1-1, ça permet aussi à l'offenseur de ne pas voir sa faute étalée tout de suite sur la place publique. Ça peut l'aider à prendre conscience. Il vous est peut-être arrivé d'offenser quelqu'un sans le vouloir, sans même vous en rendre compte. Ça peut l'aider à prendre la mesure de ce qu'il a fait. Et je m'interroge aussi en me disant, mais quel est le but de cette démarche du 1-1? Parce que quand on y pense pour soi-même, on a envie d'une explication, on a envie de dire qu'il a tort, on a envie de demander réparation. Mais ce n'est pas ça le but de la démarche, d'après ce que dit Jésus. Jésus lui dit « Ainsi, s'il t'écoute, tu gagneras ton frère. » Et là, je m'interroge en me disant « Mais est-ce que c'est ma préoccupation première lorsque je suis offensé que de gagner mon frère ?» Vous allez peut-être me trouver très noir ou très humain, mais ma première réaction, c'est de penser à moi, à ce qu'on m'a fait, à la douleur que je ressens. Jésus, lui, voit avant tout dans l'offenseur un homme en danger, un homme qui a péché, un homme qui s'est sali, et il nous demande de lui porter secours. Alors que nous serions plutôt enclins à regarder de notre côté, Jésus nous dit « Va vers l'autre et gagne ton frère ». Cette démarche d'aller voir l'autre, il faut la faire avec sagesse aussi. J'imaginais cette situation d'une discussion animée où éventuellement on en arrive même à prendre, je ne dis pas une giflée, mais secouer un peu l'interlocuteur en main. Si à ce moment-là vous allez tout de suite le voir pour lui dire « Regarde ce que tu as dit et tout », ce n'est pas le moment. La colère n'est pas tombée, etc. Il faut savoir discerner les circonstances aussi. Mais on est loin de l'attitude qui consiste à garder ça pour soi et à ruminer tout cela dans son cœur. Si cette démarche n'aboutit pas, eh bien, scène numéro 2, fait appel à un ou deux témoins. Un ou deux, c'est pas beaucoup. Toujours dans ce souci de ne pas étaler la faute de l'offenseur. Je me souviens d'une parole d'un responsable de mon ancienne église qui me disait « Étaler le péché d'un frère, ça n'a jamais édifié personne. » Et ça, c'est bien vrai. Savoir qu'un tel a fait ça, soit ça nous peine, soit ça nous pousse au jugement. Quoi, il a fait ça? On n'est pas là pour amener le jugement sur nos frères. Les témoins pourront aider les deux personnes à plus de modération d'abord, à relativiser, à prendre en compte le point de vue de l'autre. Et seulement si cette deuxième démarche n'aboutit pas, alors, informe l'Église. Et c'est un troisième appel, une troisième occasion pour l'offenseur de prendre conscience de son péché et de se repentir. Nous aimerions que les choses puissent se régler vite. Nous voyons que Jésus, lui, prend du temps. Il y a des étapes. On n'est pas tout de suite dans l'étape finale qui consiste à mettre à l'écart. Alors, mettre à l'écart, c'est quelque chose qui est grave. On coupe un frère de la communion avec l'Église. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans l'esprit de Jésus? Eh bien, il nous est dit de le mettre au même rang que les péagés et les païens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un péagé, ce n'est pas une créature méprisable. C'est une créature qui doit entendre la parole de Dieu et que Dieu veut sauver. Un frère qui a péché et qui ne se repent pas, ce n'est pas un frère perdu une fois pour toutes, c'est un frère que Dieu veut aller rechercher. Et c'est en ce sens-là qu'il nous est dit de le mettre à l'écart de l'Église pour ne pas couvrir sa faute et ne pas accepter dans les rangs de l'Église une situation de péché qui ne serait pas traitée. Jésus est patient, Jésus est bienveillant, mais Jésus n'est pas tolérant vis-à-vis du péché. Nous savons que Dieu est le péché, il ne peut pas le tolérer au sein de l'Église locale. Parce que, c'est une précision que j'ai oublié d'apporter avant de lire ce texte, le contexte, c'est bien l'Église locale. Si ton frère, on parle là de personnes qui connaissent la parole de Dieu, qui l'ont entendue. Voilà la démarche à suivre. Si nous continuons notre lecture, nous voyons que cette démarche, au verset 18, on nous dit « Je vous l'assure, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. » Si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Vous vous rendez compte de la responsabilité qui est la nôtre lorsque nous pardonnons ou lorsque nous jugeons que la personne ne s'est pas repentie et que nous la mettons à l'écart? Dieu entérine cette décision prise en son nom. Alors pour me rassurer, j'ai envie de me dire, bon, Dieu reste souverain et Dieu n'est l'obligé de personne. Mais cette parole nous montre quand même que nous avons en Église une grande responsabilité face à cette situation de péché. Puis Pierre va prendre la parole au verset 21 en disant « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irais-je jusqu'à 7 fois ?»« Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Alors, cette question de Pierre montre bien que nous nous lassons vite de pardonner, parce que si on compte, quand est-ce que vous comptez? Encore 20 minutes, encore un quart d'heure, qu'est-ce que c'est long, je me rappelle quand j'étais enfant à l'école. Le cours s'est fini dans 20 minutes. Quand on compte, c'est parce que le temps nous paraît long. Et Pierre dit jusqu'à 7 fois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 7 fois, c'est déjà beaucoup quand même. Les rabbins préconisaient de pardonner 3 fois. Donc Pierre, il se dit, mais moi je suis généreux, je vais pardonner 7 fois. Puis, je ne sais pas, peut-être que là j'interprète mal la pensée de Pierre, mais on pourrait peut-être se dire qu'il s'est dit, ben, lorsque j'aurai pardonné 7 fois, la 8e fois, j'aurai le droit de dire non. Parce que si je dois pardonner 7 fois, c'est que son repentir, il n'est pas sincère, il exagère le frère, quoi. 8 fois. Parce qu'on n'a pas dit ça à nos enfants aussi, quelquefois. Écoute, ça fait 3 fois que je te le dis, j'ai pardonné 3 fois, mais là, la 4e fois, t'exagères. Et que nous dit la réponse de Jésus? Ben, en tant que mathématicien, j'ai calculé 70 fois 7 fois, ça fait 490. Mais, vous imaginez cette scène? Aujourd'hui, 6 septembre 2015, pour la 235e fois, un tel ne m'a pas dit bonjour et m'a tourné le dos quand je me suis avancé vers lui pour sceller notre réconciliation. Imaginez l'état d'esprit de celui qui tient ses comptes là dans son carnet pour être sûr à 490 de dire stop. Là, je crois que Dieu n'a pas la même arithmétique que nous. 490 fois, ça veut dire ne compte pas. Est-ce que Dieu lui compte combien de fois il nous pardonne? Est-ce que vous avez tenu un compte du nombre de fois où vous avez demandé pardon à Dieu dans votre vie avec la crainte d'arriver à 490? Heureusement, non. Et pour se faire comprendre, Jésus va délivrer une parabole, celle qu'on appelle la parabole du serviteur impitoyable, et nous reprenons notre lecture des versets 23 à 27. Il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, Son maître donna ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens, pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et, se prosternant devant lui, supplia « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. Il y a deux personnages principaux dans cette scène. Le roi, qu'on imagine assez facilement être Dieu, et puis un serviteur qui comparaît devant le roi, et là on s'imagine assez bien à la place de ce serviteur, puisqu'il nous est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, qu'il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Chacun de nous aura des comptes à rendre. Alors certes, nous savons que nous aurons en Jésus-Christ un avocat, mais nous savons aussi que le jugement sera rendu et équitable. Et la première chose qui nous frappe dans ce texte, c'est la somme 60 millions de pièces d'argent. Dimanche dernier, j'étais déjà en train de réfléchir à ce message, et j'ai remarqué que nous avions chanté un cantique dans lequel nous disions « Je ne pouvais imaginer le prix payé pour mon péché ». Je crois que c'est de cela que Jésus parle dans cette parabole. Le prix payé pour mon péché. Et nous aussi, nous avons à l'égard de Dieu une dette que nous sommes bien incapables de rembourser et qui, si la loi était appliquée à la lettre, devrait avoir pour conséquence notre condamnation. Éphésiens 2, que nous citons souvent, nous dit « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Nous étions, nous, par nature, destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, comme le serviteur qui a été gracié par pitié. » Ce prix exorbitant, c'est Jésus qui l'a payé à la croix, lui seul juste, condamné pour des injustes. Si on en revient à la parabole, je ne sais pas ce que vous pensez de l'argument de la défense. Sois patient. Est-ce que le roi avait une raison particulière d'être patient? Accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. 60 millions de pièces d'argent. Je te rembourserai tout. C'est crédible? C'est impossible de rembourser une telle dette. Ce n'est pas la qualité de l'argumentation du défenseur qui a convaincu le roi. C'est la pitié. Mais j'en remarquerai qu'il a quand même fallu que le prévenu demande la clémence pour l'obtenir. Dieu n'accorde pas son pardon à celui qui ne s'en réclame pas. Le pardon de Dieu est gratuit pour celui qui le demande, pour celui qui reconnaît qu'il en a besoin. Et à ce stade de la méditation, je me pose une question en me disant « Mais qu'est-ce qui fait, quelles sont les raisons pour lesquelles j'accepte ou je refuse de pardonner ? » Est-ce que ce sont des raisons qu'on pourrait formuler un peu en termes de droit, du style « Ce qu'il m'a fait, ça ne se fait pas, c'est pas chrétien de faire ça, il n'avait pas le droit de… » Ces arguments sont peut-être juridiquement fondés, mais on est loin de la compassion qui était évoquée dans le texte. Je crois que Jésus, là, nous demande de ne pas être légaliste, à l'excès en tout cas, mais il nous demande d'avoir un cœur aimant et compatissant. Dans 1 Corinthiens 13, ce chapitre bien connu sur l'amour, il nous est dit « L'amour excuse tout ». Et lorsque je m'examine, je me dis « C'est quand même bizarre, ça m'est plus facile de pardonner à ceux que j'aime, plutôt qu'à ceux qui ne sont que des relations de travail, des gens que je croise, etc. L'amour rend le pardon plus facile ou moins difficile. C'est terrible, mais lorsque nous refusons de pardonner, nous refusons d'aimer. Car toujours dans 1 Corinthiens 13, il nous est dit « L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. » Or, on sait bien que le refus de pardonner, ça nous aigrit. « En toute occasion, l'amour pardonne. » Est-il besoin de vous rappeler quel est le plus grand commandement de Dieu ? Tu aimeras ton Dieu comme toi-même, mais celui qui lui est synonyme, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dieu nous demande d'aimer en pardonnant. Mais continuons notre lecture à compter du verset 28. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en disant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi, lui dit-il, accorde-moi un délai, je te rembourserai !» Mais l'autre ne voulut rien entendre, bien plus il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. Des similitudes et des contrastes. Le premier contraste, 100 pièces d'argent. 100 pièces d'argent, c'est le salaire pour 100 jours d'un ouvrier agricole. C'est pas rien, 100 pièces d'argent. 100 jours de votre salaire, si quelqu'un vous devait ça. Est-ce que vous diriez, oh, pacotille, c'est tout, on passe. Mais c'est 100 communes mesures avec 60 millions de pièces d'argent. Alors bien sûr, 100, 2 zéros, 60 millions, 7 zéros. Mais 6 zéros, ça veut dire quoi? Alors j'essaie de prendre une image. 100 kilomètres, c'est Lyon-Grenoble. Vous avez compris pourquoi on fait souvent ce trajet-là. C'est une heure de route. 60 millions de kilomètres, c'est 1500 fois le tour de la Terre. 1500 fois. Si jamais vous alliez de Lyon à Grenoble en une heure, il vous faudrait 68 ans et demi à la même vitesse pour faire 1500 fois le tour de la Terre. Une heure d'un côté, une vie de l'autre. Si j'ai pris le temps de développer cette image, c'est parce qu'on voit bien qu'elle est au centre de la parabole de l'enseignement de Jésus. Une heure contre une vie. Quelle disproportion! Voilà ce qui nous a été remis, une vie, et voilà ce que nous refusons parfois de remettre, une heure. Est-ce que nous sommes capables d'évaluer à sa juste mesure l'offense qui nous est faite? Est-ce que c'est juste une petite blessure d'amour propre, l'équivalent d'une minute de ma vie, une pacotille que je pouvais laisser sur le côté? Est-ce que c'est plus grave? Est-ce que c'est quelques jours, quelques semaines, quelques mois? Mais est-ce que ça arrive à l'échelle d'une vie? Je crois qu'à travers ça, Dieu veut nous montrer que nous sommes ingrats lorsque nous refusons de pardonner. Et cette ingratitude, elle peut avoir des conséquences, nous allons le voir. Au verset 31, d'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Tu es vraiment odieux, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, toi, mon serviteur, je te l'avais remis, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? » Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Comment ne pas être choqué par la dureté de cœur de ce serviteur, mais aussi peiné de voir où cela l'emmène. Voilà quelqu'un qui a frôlé le pire, qui a cru s'en être sorti. Ah, pardon, là je suis en avance sur le... Voilà. et qui retourne à la condition à laquelle il avait échappé. Et cette fois-ci, c'est sa faute à lui. C'est lui qui s'est mis dans cette situation-là. Je pense que, comme moi, vous avez remarqué que le verset 35 s'adresse à nous, chacun en particulier. « Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. » Dieu veut que nous pardonnions. Ce que je vous dis, c'est que si c'est difficile, nous pouvons au moins, dans la prière, lui dire notre volonté de pardonner. Savoir que nous ne sommes pas forcément capables par nous-mêmes de le faire, mais lui dire « Seigneur, je sais que c'est ta volonté, je veux m'y soumettre. » Et nous savons aussi que la prière du juste a une grande efficace. Nous sommes sûrs de prier selon la volonté de Dieu lorsque nous lui demandons de nous aider à pardonner. Et nous pouvons croire qu'il exaucera cette prière. Alors nous arrivons au temps de la conclusion. S'il fallait retenir une phrase de cette prédication, ce serait, ce n'est pas dans le texte que nous avons lu, mais c'est formulé dans Colossiens 3, verset 13, « Pardonne, car tu as été pardonné. » Refuser de pardonner, c'est juger, c'est condamner l'offenseur. Or, Paul, dans l'Épître aux Romains, nous remet à notre place, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la parabole, les deux personnes, les deux débiteurs, sont tous les deux appelés serviteurs. Et là, dans l'Épître aux Romains, Paul nous dit « Mais ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. » C'est ce qui s'est passé pour le serviteur qui n'a pas voulu pardonner. « Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Lorsque nous sommes offensés, nous sommes victimes du péché, mais nous sommes aussi offenseurs à nos moments. Nous sommes comme celui qui nous blesse. Nous sommes tous des pécheurs, pardonnés ou susceptibles de l'être, si nous demandons à Dieu son pardon. Et refuser de pardonner, nous l'avons vu avec ce... Voilà. Avec ce serviteur qui retourne en prison, ça peut avoir des conséquences pour les autres, parce que en refusant de pardonner, eh bien, on laisse l'offenseur sous le poids de sa faute. Dans l'Ancien Testament, il y a une image qui est terrible, je trouve, où il nous est dit « Dans certaines circonstances, prie pour un tel, tu poseras des charbons ardents sur sa tête. » C'est une idée horrible de dire « Je vais prier comme ça, je vais l'enfoncer. » Je pense que ce n'est pas du tout le sens de la parole. C'est de dire « Si cette personne ne répond pas, si elle ne se repent pas, alors, eh bien, elle s'enfonce en persévérant dans le mal. » Eh bien, lorsque nous refusons de pardonner, c'est un peu comme si nous laissions ces charbons ardents sur la tête de l'offenseur. On est loin de l'idée de Jésus qui était de gagner notre frère. Et puis, comment convaincre notre entourage de l'amour de Dieu et de la possibilité d'être pardonné de lui si nous-mêmes, nous refusons de pardonner aux autres? Vous savez qu'il est enseigné dans la parole que c'est l'amour que les disciples manifestent entre eux qui convaincra les autres que Dieu est amour. Je ne crois pas me tromper en faisant le parallèle et en disant que c'est en exerçant le pardon que nous montrerons aux autres que Dieu est amour et pardonne aux pécheurs. Rien ne remplace la force de l'exemple, et je pense que c'est pour cela aussi que Christ nous est souvent donné comme modèle. Si je vous demandais de citer un exemple, une situation où Christ a pardonné, quelle est la première qui vous vient à l'esprit? Je n'ai pas entendu. La Samaritaine. Oui. La Samaritaine, il pardonne quelqu'un. Sur la croix, il demande le pardon pour ceux qui l'ont offensé lui. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'on pouvait lui faire de pire? Non seulement de le crucifier, de le mettre à mort, mais, comment je veux dire, de ne pas voir en lui le juste, de le traiter comme le dernier des voleurs, des criminels. C'est peut-être encore pire que la mort proprement dite. C'est dans la première épître de Pierre qu'on trouve cette exhortation, alors je survole quelques versets, au passage les versets 12, 15 et 23, qui nous exhortent à témoigner par notre conduite. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Car la volonté de Dieu est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Lui, Jésus, qui injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, et c'est peut-être là une pensée dont il faut nous inspirer, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, verset 23. Pour pardonner, je crois que nous pouvons prendre appui sur la justice de Dieu. En pardonnant, nous sommes à l'image de celui qui nous a pardonné et nous manifestons la puissance du pardon de Dieu pour chaque pécheur qui se repent. Mais pardonner ou refuser de pardonner, ça a aussi des conséquences pour nous-mêmes. Je l'ai déjà évoqué, celui qui refuse de pardonner, qui retient les fautes, reste sous le poids aussi de la blessure qu'il a reçue. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas vu, vous n'avez pas vu des gens qui, j'allais dire, tournent en rond, qui rabâchent toujours la même chose, qui en reviennent toujours à des choses qui, quelquefois, remontent à 10, 20, 30, 40 ans, quelquefois. Spirituellement, ils restent bloqués. Il y a un obstacle là qu'ils n'arrivent pas à surmonter. Ils sont dans une espèce de spirale. Et, vous savez, une spirale, ça s'enroule, en général, c'est, comme on dit, un cercle vicieux. Les choses vont de mal en pis. Avec le temps, les choses prennent une proportion disproportionnée, on devient obsédé, on ramène tout à la même chose, et les conflits durent, au point que humainement, on se dit même qu'on ne voit pas comment en sortir. Souvenons-nous alors de l'enseignement de Jésus, « Va voir ton frère, d'abord seul, avec des témoins, etc. » Toute la démarche est expliquée. Comme je disais, faisons preuve de sagesse pour choisir le moment où nous y allons, mais ne laissons pas certaines situations perdurer, dégénérer. Pardonner, c'est prendre le chemin de la guérison. J'avais trouvé une illustration qui m'avait un peu amusé. Tous ces sparadraps pour couvrir des blessures. Pardonner, c'est ce qui permet de guérir les plaies du passé, de libérer notre présent et de nous rendre la paix pour le futur. Et s'il nous arrive de penser que ce n'est pas possible, cette fois-ci, que la blessure est trop profonde, eh bien souvenons-nous des 60 millions de pièces d'argent. Trois dernières pensées, trois raisons de pardonner, trois motifs, pardon. Pardonne pour imiter Dieu. Vous savez que dans la parole, souvent il nous est dit que nous avons été créés à l'image de Dieu et que Dieu attend que nous nous comportions à son image. Souvenons-nous du comportement de Jésus-Christ à la croix. Pardonnons par gratitude aussi. Rappelons-nous les conséquences de ce serviteur qui n'a pas voulu pardonner et qui est retombé dans sa situation première. Mais pardonner, c'est aussi une nécessité. Et j'ai beaucoup hésité à vous laisser cette conclusion parce qu'on aime bien terminer sur quelque chose qui va vous réchauffer le cœur pour la semaine. On a envie de donner une parole d'envoi. Mais je vous dis qu'il y a des moments peut-être qu'on se rassure à bon compte et que la parole nous donne aussi des avertissements qu'il ne faut pas oublier trop vite. Alors, je terminerai par deux lectures, une dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 25. Lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Dieu nous demande de pardonner pour être pardonné. Et puis vous m'excuserez, ce n'est pas une citation biblique, c'est une citation qui est tirée de l'Ecclésiastique, un livre apocryphe, où il est dit « Si un homme nourrit de la colère contre un autre, comment peut-il demander à Dieu la guérison ? Pour un homme, son semblable, il est sans compassion et il prierait pour ses propres fautes? Le mot de la fin, je le laisse à Jésus pour le verset 35. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Amen.